VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 6 octobre 2017, en direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson, pour commencer les titres.
Nouvelle manifestation de milliers de Togolais hier à Lomé et en province.
Au Tchad, le président Idriss Déby Itno a limogé de hauts responsables politiques et militaires dans le nord du pays.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, attendu d'ici à la fin du mois en Centrafrique.
Le président américain Donald Trump estime que Téhéran ne respecte pas l'esprit de l'accord sur le nucléaire iranien. On s'attend à une non-certification la semaine prochaine.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Des milliers de Togolais ont encore manifesté hier à Lomé et en province dans un climat tendu. Les manifestants veulent non seulement des réformes constitutionnelles pour limiter les mandats présidentiels, mais aussi le départ du président Fornia Singbe. Depuis fin août, c'était la 7e grande journée de manifestation organisée par l'opposition. Cette contestation populaire est-elle capable de chasser du pouvoir le régime de Lomé? Éric Manirakidza s'est entretenu avec Michel Goé-Akwe, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Lomé.
Le pouvoir en place a été mis en place par l'armée et l'armée est pratiquement derrière. C'est possible que dans l'armée, il y a de jeunes officiers qui ont des velléités démocratiques. Mais pour l'instant, l'armée continue de frôler et pour que ça change, il faut vraiment une force d'interposition qui puisse cantonner l'armée, cette armée qui n'est pas républicaine, qui est une armée pratiquement ethnicisée et qui est donc à la solde du pouvoir en place. Donc, il n'est pas sûr que sans contrôle de l'armée, que ce mouvement puisse aboutir, parce qu'à chaque fois cette armée est prête à mitrailler les pauvres citoyens. Parce qu'à chaque fois que les mouvements s'organisent, ce n'est pas les forces de l'ordre qui encadrent, mais au contraire nous avons donc des militaires en armes de guerre qui sont dans les différents coins pour terroriser la population. Ce qui fait que l'issue de cette opération, si elle doit marcher, ce serait dans un bain de sang tel qu'on le prévoit et on le regarde.
Michel Goé-Akwe, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Lomé.
Au Tchad, le président Idriss Déby Itno a limogé de hauts responsables politiques et militaires accusés de laxisme et de laisser-faire dans le nord du pays. C'était en marge d'une visite dans la région de Nouveau. Éric Manirakiza.
Idriss Déby Itno a remplacé le gouverneur, le préfet et le commandant d'une zone militaire de la région du Borku Enedi Tibesti dans la ville de Faya Larjo. Cette décision intervient pendant que plane le spectre d'une rébellion aux confins Tchad-Libye. Mi-août, des éléments de l'armée tchadienne ont été attaqués et plusieurs tués non loin de la frontière avec la Libye. Le dispositif sécuritaire a été renforcé dans l'extrême nord du Tchad. Le chaos en Libye a favorisé la naissance de toutes les rébellions au nord. La région du Borku est devenue le lieu de toutes sortes de trafics. Depuis lundi, le président tchadien mène une campagne de sensibilisation pour engager les notables de la région à ne pas se laisser séduire par les sirènes de la rébellion. La ville de Faya Larjo abrite également une base avancée de l'armée française, aujourd'hui rattachée à la force Barkhane, qui lutte contre les djihadistes.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se rendra en Centrafrique d'ici à la fin du mois, selon la mission des Nations Unies à Bangui. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Pour l'instant, aucun détail n'a été donné sur le jour et le programme de la venue en Centrafrique d'Antonio Guterres. Ce sera sa première visite d'une opération de maintien de paix depuis sa prise de fonction en début d'année. Le conseiller spécial du secrétaire général pour la prévention du génocide, Adama Dieng, se rend à Bangui ce vendredi. Il va visiter Bria, théâtre de massacre en juin et en août, et doit rencontrer des représentants de groupes armés et des victimes des violences. Le 27 septembre, le président français Archange Touadéra a estimé que parler de génocide n'est pas justifié. Le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires humanitaires, Stephen O'Brien, avait parlé de situation pré-génocide après plusieurs visites en Centrafrique. Le mandat des 12 500 casques bleus de la MINUSCA prend fin le 15 novembre, mais devrait être renouvelé. La Centrafrique connaît une recrudescence des violences entre groupes armés qui se disputent le contrôle des ressources naturelles.
Le commandement militaire américain pour l'Afrique a confirmé hier que 3 de ses hommes ont été tués au cours d'une opération antiterroriste menée conjointement avec les forces nigériennes à quelques 200 kilomètres au nord de la capitale Niamey, dans le sud-ouest du Niger. Après avoir laissé planer le doute sur le bilan toute la journée, le gouvernement nigérien a finalement confirmé hier soir que 4 de ses soldats avaient été tués et 8 autres blessés aux côtés des militaires américains donnant des détails sur l'embuscade. Selon un communiqué du Pentagone, une autre personne d'un pays non cité a également été tuée.
Dans un message ferme, le Conseil de sécurité de l'ONU a réclamé jeudi aux parties maliennes des avancées significatives dans l'application de l'accord de paix de 2015, peu après l'évocation par Bamako de progrès remarquables à ce sujet. La France occupe en octobre la présidence tournante du Conseil de sécurité et compte mettre l'accent tout au long du mois sur la situation au Sahel et la nécessité de soutenir la lutte régionale contre des groupes djihadistes.
Le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, a appelé hier les pays de la zone CFA à lutter contre le financement du terrorisme et à réduire les déficits publics. C'était à l'occasion d'une réunion à Paris avec ses homologues africains. Les précisions de John Linden.
Nous avons plusieurs États membres de la zone franc qui sont directement concernés par le terrorisme, a affirmé Bruno Le Maire au terme de la réunion des ministres des 14 pays de la zone franc. Le ministre français a par ailleurs ajouté que les risques en termes de financement du terrorisme n'avaient jamais été aussi élevés. La question sera d'ailleurs abordée la semaine prochaine à Washington, à l'occasion des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. La réunion de Paris a abouti au constat d'un problème de croissance de l'endettement dans les pays francophones. Pour le résoudre, la France propose la réduction des déficits publics, l'accroissement des investissements et la rentrée des recettes fiscales. Les participants ont assuré ne pas avoir parlé d'une éventuelle réforme du franc CFA. Ce n'était pas à l'ordre du jour, a assuré Amadou Ba, ministre sénégalais des Finances, et Bruno Le Maire a balayé d'un revers de main une éventuelle dévaluation du franc CFA.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Stephen Paddock, le meurtrier de masse de Las Vegas, avait loué auparavant des chambres d'hôtel surplombant des festivals de musique dans cette ville, ainsi qu'à Chicago, dans l'Illinois. Selon les forces de l'ordre, il s'agit du festival Lollapalooza de Chicago, auquel assistent des centaines de milliers de fans chaque année, au mois d'août, et celui de Life is Beautiful, qui se tenait dans la même ville de Las Vegas une semaine avant le massacre de dimanche dernier. Paddock n'avait pas occupé la chambre louée à Chicago, et on ignore s'il s'était même rendu dans l'Illinois. Les autorités essaient toujours de découvrir le mobile de ce meurtre de masse à Las Vegas, qui a coûté la vie à 59 personnes, dont le tueur, et fait près de 500 blessés.
Le président américain Donald Trump ne va vraisemblablement pas certifier que Téhéran respecte ses engagements au terme de l'accord sur le nucléaire iranien, pour laisser ainsi le Congrès réimposer éventuellement les sanctions contre la République islamique. C'est ce que disent de hauts responsables américains. Monsieur Trump devrait annoncer sa décision dans un discours la semaine prochaine et les mêmes officiels s'attendent à ce qu'ils disent que l'accord n'est pas dans l'intérêt national des États-Unis. Par ailleurs, une non-certification pourrait également ouvrir la voie à une renégociation de l'accord, bien que le président iranien Hassan Rouhani ait déjà rejeté une telle option. Rencontrant ses hauts responsables militaires hier à la Maison-Blanche, le président Trump a répété ses affirmations selon lesquelles l'Iran ne respectait pas l'esprit de l'accord.
La coalition arabe dirigée par l'Arabie saoudite et engagée dans la guerre au Yémen figure pour la première fois sur une liste noire annuelle de l'ONU, une liste qui dénonce les pays et entités commettant, lors de conflits, des exactions contre des enfants. Cette liste est inscrite dans une annexe à un rapport sur les enfants et les conflits armés, publié chaque année par le secrétaire général de l'ONU. Ce document, rendu public hier, note cependant que la coalition a pris des mesures pour limiter les conséquences de son engagement militaire sur les enfants.
La police saoudienne a démantelé une cellule terroriste liée au groupe djihadiste État islamique, tuant 2 de ses membres et en arrêtant 5 autres, selon un communiqué officiel publié hier. Selon l'agence officielle saoudienne, citant l'Agence pour la sécurité de l'État, la police a mené l'assaut mercredi contre 3 sites suspects de Riyad, essuyant des tirs dans l'un d'entre eux. Les membres de la cellule sont liés au groupe État islamique, a ajouté cette même source.
Un kamikaze s'est fait exploser jeudi devant un sanctuaire soufi dans le sud-ouest du Pakistan, tuant 18 personnes et en blessant au moins 27 autres. Une attaque qui a été revendiquée par l'organisation djihadiste État islamique. L'attaque s'est produite alors que les fidèles assistaient aux festivités annuelles célébrant un saint local dans la région de Gandawa, dans le district Jalmaxi de la province riche en pétrole et en gaz du Baloutchistan, frontalière de l'Iran et de l'Afghanistan. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
La Minute Écho, Blanche Sonneau.
Le groupe hôtelier mondial Hilton prévoit d'investir 50 millions de dollars au cours des 5 prochaines années. Selon l'agence Ecofin, c'est pour rénover et donner une nouvelle image à 100 hôtels en Afrique afin de bénéficier de la nouvelle dynamique des affaires et du tourisme sur le continent. Cette ruée vers l'Afrique reflète l'environnement favorable que présente actuellement le continent. La croissance du PIB est restée assez soutenue dans certaines économies, l'amélioration des normes sécuritaires, la hausse des investissements orientés vers les infrastructures sont les autres indicateurs porteurs de ce nouvel engouement de l'industrie hôtelière mondiale pour le continent. Au Burkina Faso, la Chambre de commerce et d'industrie a lancé les préparatifs de la 5e édition du Forum ouest-africain de développement des entreprises, Africalia 2018, selon APA News. Prévu pour se tenir du 21 au 23 février 2018, Africalia est un cadre d'échange et de partenariat avec les entreprises étrangères en général et de l'Afrique de l'Ouest en particulier. Cette édition d'Africalia ambitionne de réunir plus de 400 chefs d'entreprise d'une vingtaine de pays et de leur organiser des rendez-vous d'affaires. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire et l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire ont signé un protocole d'accord en vue d'impulser une dynamique nouvelle pour la mobilisation des acteurs autour d'actions prioritaires de développement. Ce partenariat vise principalement à mettre en œuvre des projets structurants dans les régions et développer les investissements directs.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Jour J avant le choc à Bamako, Mali, Côte d'Ivoire.
Eh oui, une défaite à domicile à Bouaké le 5 septembre contre le Gabon, 2-1, qui a ravivé l'inquiétude en Côte d'Ivoire. Et donc les Ivoiriens qui espèrent sortir vainqueurs de ce match piège. Aujourd'hui à Bamako, le coup d'envoi 19h temps universel face à des Maliens qui sont presque éliminés. En tout cas, l'équipe de Marc Wilmots est dos au mur, d'autant que de nombreux joueurs sont blessés, notamment Gervinho, Seydou Doumbia, Wilfried Bonny ou encore Jean-Michel Seri qui ont déclaré forfait pour ce match. On va donc suivre cette rencontre qui compte pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 dans le groupe C.
La Syrie maintient l'espoir.
L'Australie tenue en échec 1-0 par la Syrie en pré-barrage asiatique après une option sur le barrage continental face au 4e de la zone CONCACAF, toujours pour décrocher un ticket au Mondial 2018. Dans une rencontre disputée à Malacca, c'est dans le sud de la Malaisie, et qui faisait office de match à domicile pour les Syriens dont le pays est en guerre, l'Australie a ouvert le score par Robbie Cruz à la 40e minute avant d'être rejointe à 5 minutes de la fin du match sur un pénalty transformé par Omar Al-Soma. Le match retour, ce sera mardi à Sydney.
Le Togo battu en amical.
L'Iran qui a battu le Togo 2-0 en match amical, c'était hier à Téhéran. Les buts iraniens sont l'œuvre de Karim Ansarifar, auteur d'un doublé à la 51e et à la 60e minute.
La Russie prête pour le Mondial 2018.
La FIFA qui se dit satisfaite de la préparation de cette Coupe du Monde en Russie, mais qui souligne qu'un travail significatif reste encore à accomplir. De façon générale, la préparation est bonne, a déclaré Colin Smith, le directeur des compétitions de la FIFA, à l'issue d'une visite de 10 jours en Russie.
Et la Coupe du Monde 2026, on en parle aussi.
Et oui, la FIFA qui promet un processus d'attribution du Mondial 2026 transparent. On se souvient, Idrissa, des suspicions de corruption qui pèsent sur la désignation de la Russie pour 2018 et du Qatar pour 2022. Dans une tribune qui paraît dans le magazine de la FIFA, le président Gianni Infantino assure que la FIFA a radicalement modifié le mécanisme de sélection du pays hôte et mis en place une procédure désormais aussi objective et transparente que possible. On rappelle qu'à ce jour pour 2026, deux candidatures seulement, la candidature commune États-Unis-Canada-Mexique contre la candidature marocaine. La Coupe du Monde 2026, Idrissa, ce sera la première Coupe du Monde à 48 pays.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nous vous le disons hier, les États-Unis ont jugé inacceptables les violences en marge d'une proclamation symbolique d'indépendance dans les zones anglophones du Cameroun le 1er octobre, appelant les autorités de Yaoundé à respecter les droits de l'homme. Dans un communiqué, le département d'État américain se dit profondément préoccupé par la violence et les pertes en vie humaine lors de manifestations qui ont eu lieu dans les régions camerounaises du nord-ouest et du sud-ouest. John Lyndon, adjoint à Bamenda, Joshua Osi, vice-président du SDF, le principal parti d'opposition.
Il y a beaucoup trop de pertes en vie humaine, beaucoup trop de violence de la part des autorités de maintien de l'ordre pour une simple manifestation. Vous voyez, d'un côté de la frontière, du côté francophone, les Camerounais ont manifesté pour le 1er octobre. Il n'y a eu aucun tir. Et du côté anglophone, à cause des vérités des sécessionnistes, les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles. Il y a malheureusement beaucoup trop de décès survenus le 1er octobre et beaucoup trop de personnes sont aujourd'hui incarcérées ou portées disparues.
Les États-Unis appellent justement le gouvernement camerounais à respecter les droits humains et la liberté d'expression et à dialoguer pour trouver une issue aux problèmes des populations dans les régions anglophones. Est-ce que vous pensez que ce message peut être entendu par les autorités à Yaoundé?
Nous espérons que les autorités gardent raison et reviennent tout petit peu à des sentiments plus patriotiques et arrête de tuer nos compatriotes. Ça fait un an que le SDF demande exactement ça. Nous, notre grande crainte aujourd'hui, c'est qu'on soit arrivé à un point de non-retour et que le dialogue ne soit plus possible avec ceux qui tuent des Camerounais aujourd'hui. Donc vous ne pouvez pas d'un côté tuer en toute impunité des centaines de Camerounais et de l'autre côté appeler au dialogue et commencer à dialoguer comme si de rien n'était. Donc nous pensons qu'il y a un élément que le département d'État a négligé dans son communiqué, c'est celui de faire une enquête pour faire la lumière sur tous ces meurtres et ceux qui ont demandé à l'armée de tirer à balles réelles sur les manifestants.
Est-ce qu'au sein du SDF, vous pensez qu'il y a espoir que ce problème se résolve dans la paix?
Il faut absolument, au sein du SDF, il faut restaurer l'ordre constitutionnel, et l'ordre constitutionnel passe par avoir un gouvernement légitime, et un gouvernement légitime est un qui ne tire pas sur ses propres citoyens mais qui les protège. Un gouvernement légitime, c'est un qui travaille pour son pays et qui n'est pas en vacances, dont le chef n'est pas en vacances pendant que le pays brûle. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument qu'on reconnaisse que le problème n'est ni à Bamenda ni à Bouya, mais le problème il est à Yaoundé avec le président de la République et que c'est M. Biya le problème.
C'était de Bamenda au Cameroun, Joshua Osi, vice-président du SDF, principal parti d'opposition.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Fin de la réunion à Paris des ministres des Finances de la zone franc, les participants ont assuré ne pas avoir parlé d'une éventuelle réforme du franc CFA selon Amadou Ba, ministre sénégalais des Finances. Son homologue français Bruno Le Maire a balayé d'un revers de main une éventuelle dévaluation du franc CFA. En tout état de cause, le débat se poursuit sur le continent. Sortir ou ne pas sortir de la zone franc, Idriss Fall a recueilli l'avis du professeur Abdoulaye Diagne, directeur du consortium sur la recherche économique au Sénégal.
Le problème, c'est de savoir si c'est dans leur intérêt de le faire. Si je devais donner une réponse claire, je dirais que non. C'est une institution, si je puis dire, qui date de 70 ans. Ce n'est pas une raison pour dire qu'on doit la jeter aux orties. Cela prouve aussi que cette institution a une capacité à survivre, à faire face à un certain nombre de défis.
Les opposants disent que 50% des avoirs sont déposés à la Banque centrale de France. C'est une perte de souveraineté nationale, c'est une monnaie coloniale.
Si vous avez votre propre monnaie, cette monnaie ne peut être utilisée qu'à l'intérieur des frontières de votre pays. Si vous voulez acheter à l'extérieur, il vous faut des devises convertible. Pour avoir ces devises, vous devez exporter ou emprunter. C'est ce que font tous les pays du monde. Si vous empruntez, vous devez donner des garanties. Vous avez votre monnaie nationale ou pas. un emprunt a toujours une garantie derrière. Ce n'est pas là le problème. Si c'était des ressources qui étaient gelées au trésor, qui ne pouvaient pas être utilisées tout simplement parce qu'elles seraient là à des fins de garantie, on aurait compris. Mais ce n'est absolument pas le cas. La BCAO, comme la BAC, gère ce type de compte de façon active, à savoir qu'il y a des dépôts, qu'il y a des retraits. C'est une sorte de compte d'épargne. Alors qu'il y a d'autres comptes qui sont ouverts auprès d'autres banques centrales ou bien des banques commerciales pour la gestion courante. Je ne vois vraiment pas quel est le problème majeur ici.
Dans la CEDEAO, c'est vu comme objectif 2025 pour arriver à la monnaie unique. Vous pensez que c'est possible, ça?
C'est un autre débat. Si nous restions sur la question du franc CFA, je pense que le problème qui vaille vraiment la peine d'être posé, c'est le problème de la parité du franc CFA et de l'euro. Est-ce qu'on doit avoir une parité ou bien on doit avoir un taux de change flexible? Je pense que l'introduction d'une flexibilité dans le taux de change serait un pas important. Maintenant, pour ce qui concerne la monnaie ouest-africaine, l'alternative crédible, sérieuse à la zone franc, c'est la création d'une zone monétaire ouest-africaine où vous aurez non seulement les pays de l'UEMOA, mais aussi les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Nigeria et le Ghana. Je pense que si on arrivait à mettre en place cette zone, il n'y aurait plus de raison de rester dans la zone franc. Techniquement, c'est possible. Économiquement, c'est viable. Ce qui manque, c'est une volonté des dirigeants. Et je crois que c'est de ce côté-là qu'il faut voir les difficultés, les problèmes.
Le professeur Abdoulaye Diagne, directeur du Consortium sur la recherche économique au Sénégal.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Burundi, le prix de l'électricité a doublé depuis septembre. La population s'interroge car les prix des matières de première nécessité ne cessent de flamber. Pour les autorités, mieux vaut une hausse de prix de l'électricité qu'une pénurie. Reportage à Bujumbura de Christophe Kurunziza.
L'Union européenne subventionnait la production de l'électricité au Burundi à hauteur de 25%, mais depuis la suspension de la coopération de l'Union européenne, la pénurie de l'électricité était quasiment quotidienne, mais un contrat entre la Régie des eaux et la société Interpétrole a permis l'achat de 30 MW de l'énergie thermique. Les délestages commencent à disparaître petit à petit dans les quartiers de la capitale. Cet habitant de Bujumbura ne cache pas sa colère malgré la fin des délestages.
C'est vraiment désolant parce que vous voyez, avec des prix comme ça, ça augmente le coût de la vie habituelle. Par exemple, un kilo de blé ou de maïs qu'on a amené pour faire la farine, on payait 100 francs. Mais pour le moment, c'est 300 francs. C'est beaucoup. Donc, c'est la vie qui devient vraiment impossible. Tout augmente. C'est vraiment malheureux. Mais au moins, c'est le moindre mal. Pour éviter au moins l'utilisation des bougies qui causent des accidents dans les ménages, on entend des enfants qui sont brûlés, qui vont à l'hôpital à cause des bougies qu'on utilise dans la place de l'électricité. Donc c'est malheureux, mais au moins c'est le moindre mal.
Bien de Burundais demandent à la Régie des eaux de revoir leur décision. Ce Burundais moyen ne cesse de se plaindre.
Nous continuons à nous plaindre parce que, vous savez, ici chez nous, beaucoup de gens n'ont pas de quoi travailler. On est chômeurs. Alors augmenter le prix de l'électricité, ça me dérange beaucoup parce qu'on n'a pas assez d'argent pour acheter ça. Mais on ne trouve pas de quoi manger suffisamment.
Et qu'est-ce que vous demandez à la Régie des eaux?
Le
directeur de la Régie des eaux reconnaît que le pays fait face à une crise énergétique. Jéroboam Nikobanyanga estime que les centrales thermiques étaient le seul remède au manque de courant. Vaut mieux une hausse du prix de l'électricité que le manque de courant, indique-t-il. Mais ce responsable affirme qu'à la longue, les centrales thermiques ne sont pas la solution car elles coûtent plus cher que l'énergie hydroélectrique. L'Association burundaise des consommateurs s'indigne des explications fournies par la Régie des eaux et se pose la question de savoir pourquoi la Régie des eaux n'investit pas dans la construction des barrages hydroélectriques. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Le bilan de l'épidémie de peste qui affecte depuis plus d'un mois Madagascar, dont la capitale Antananarive, continue de s'aggraver. Cette année, l'épidémie s'est propagée aux grandes zones urbaines. Contrairement aux précédentes épidémies, 60% des cas enregistrés sont des pestes pulmonaires. Solange Niamoulissa a joint Dr Charlotte Niaï, représentante de l'Organisation mondiale de la santé.
À la date d'aujourd'hui, nous sommes à 232 cas de peste depuis le mois d'août. Et sur ces 232 cas, 60% de ces cas sont des pestes pulmonaires. Une épidémie à transmission respiratoire et qui se transmet d'homme à homme. Il y a deux formes de peste qui étaient fréquentes à Madagascar. La forme bubonique, c'est-à-dire celle transmise à partir du rat et des puces vers les hommes. Et puis maintenant, on a cette peste pulmonaire qui fait que nous sommes assez préoccupés par la situation actuelle. L'autre problème que nous avons, c'est que cette année, on est face à une peste urbaine. C'est-à-dire que c'est une épidémie qui sévit dans les grandes villes où on a un taux de population très élevé. Donc on a Tananarivo, Majenga, on a Finaransu et Otamatav. L'épidémie est en train de s'étendre dans la ville de Tuléar qui est au sud de Madagascar et également sur le côté ouest d'une région qui s'appelle Menabe.
Mais quelles sont les mesures prises pour empêcher cette propagation?
L'OMS travaille avec le ministère de la Santé, les autorités, depuis le début de cette épidémie, mettant en place un système de recherche de contacts, c'est-à-dire à chaque fois qu'un cas a été notifié, nous recherchons les contacts. Il faut arriver à avoir tous les contacts pour régler le problème de la transmission. Et quand nous recensons ces contacts, nous leur donnons de l'antibioprophylaxie parce qu'ils ont été en contact avec le malade. D'un autre côté, on a mis à la disposition de toutes les structures de santé les traitements nécessaires, les antibiotiques et également on leur a donné les tests de diagnostic rapide.
Et qu'est-ce qui doit être fait pour que cette maladie ne revienne pas l'année prochaine? On sait bien qu'elle a été éradiquée partout dans le monde.
On dit que la peste est endémique, elle existe en permanence à Madagascar. Il faudrait travailler sur l'assainissement, travailler sur une approche culturelle qui veut peut-être voir toutes ces approches culturelles où on parle de remontée des morts, semble-t-il, pourrait faire partie des raisons de transmission. Mais c'est surtout la fréquence de ces rats noirs qui sont porteurs de puces dans lesquels on trouve le bacille responsable de la peste. Insister au niveau des populations sur les mesures d'hygiène. On travaille à faire un plaidoyer auprès du gouvernement malgache pour qu'il accorde une grande importance à cette maladie, qu'il en fasse une priorité et qu'il prévienne cette épidémie puisqu'on connaît la période, mois de septembre jusqu'au mois d'avril, nous avons des cas.
Docteur Charlotte Niaï, représentante de l'Organisation mondiale de la santé.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons de la mortalité maternelle.
Selon l'OMS, environ 830 femmes meurent environ chaque jour des causes évitables liées à la grossesse et à l'accouchement.
Pour comprendre les causes de ces décès, nous recevrons comme invité le docteur Richard Mukendi, gynécologue obstétricien en RDC.
Nous écouterons aussi les témoignages de deux sages-femmes en RDC et au Bénin. Elles nous raconteront leurs expériences d'éducatrices et d'accoucheuses.
Votre Santé, Votre Avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h, temps universel, dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Zeynab Abdelrahman. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.